Alors, ce texte, 60 versets, nous rapporte les discours d'Étienne, mais aussi sa fin, du moins terrestre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela se passe? Déjà dans le chapitre 6, nous pouvons lire rapidement à la fin de ce chapitre 6 que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi les peuples, parmi le peuple. Au verset 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils se doyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Plus loin, verset 13, ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Et au chapitre 7, donc devant le Sanhédrin, devant la justice religieuse, on lui pose la question: les choses sont-elles ainsi? Nous connaissons, d'après les dernières lectures que nous avons faites, qui est Étienne. Étienne était parmi les 7 diacres choisis. Et ces 7 diacres ont été choisis avec des critères bien précis. Donc le chapitre 6, au verset 3, il est dit: choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Bon témoignage, rempli du Saint-Esprit et rempli de sagesse. Dans le texte que nous venons de lire, donc toujours au chapitre 6, il est dit au verset 8 que Étienne, plein de grâce et de puissance, plus loin, verset 10, à la suite de les discussions que nous constatons au verset 9, il dit: il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc, nous constatons que ce diacre, qui était chargé pour la distribution de la nourriture pour les veuves dans l'église de Jérusalem, avait une carrure spirituelle que beaucoup enviaient. Et Dieu l'utilisait de différentes manières. Mais cela provoque bien sûr des jalousies. Ces personnes, il est noté ici, de la synagogue des affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandrins, avec les juifs de Cilicie et d'Asie, ont sont touchés ou plutôt s'est mis en colère face à cette sagesse. Donc ils soudoyèrent des hommes, verset 11 toujours du chapitre 6, ils soudoyèrent des hommes pour l'accuser. L'accuser d'avoir fait quoi? D'avoir, un, proféré des paroles blasphématoires contre Moïse. Ah, Moïse c'était le grand homme du judaïsme. On ne peut pas toucher à Moïse. Donc il fallait qu'il soit accusé à ce niveau-là contre Dieu. Bien sûr, on croit en ce Dieu unique dont le nom ne doit pas être blasphémé. Hein? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en Dieu, dit la loi. Ça, c'est le verset 11. Il est aussi accusé par ces gens-là d'avoir dit des mots blasphématoires contre le lieu saint, ah, le temple. Ah, ils l'ont chargé, hein. Le lieu saint, le temple, mais aussi contre la loi, c'est-à-dire la Torah, la Bible. Et ils vont jusqu'à dire, ce Jésus, le Nazaréen, qui est annoncé comme un homme que les apôtres ont annoncé la résurrection, il est vivant. Ce Nazaréen détruira ce lieu saint, le temple, et changera les coutumes que Moïse a donné. Sous-entendu toujours la loi, changer la loi. Alors, est-ce que ces accusations tiennent debout ou est-ce que ces accusations ont des traces dans la parole de Dieu et dont la signification ont été tordues? Allons dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Gardons toujours l'acte 7. Évangile de Jean au chapitre 2, au verset 19. On peut lire à partir du verset 18. C'est Jésus qui parle avec ces religieux qui s'opposent à lui. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait faite. Il y a donc une trace dans les paroles de Jésus où il est question de la destruction du temple, mais dans une autre signification. Autant les apôtres l'utilisent pour montrer la résurrection de Jésus, pour proclamer la résurrection de Jésus, les opposants, bien sûr, gardent la notion matérielle et l'appliquent à Étienne. Dans Matthieu, au chapitre 26, verset 61, on peut lire à partir du verset 59, 26, 59 de Matthieu. Les principaux sacrificateurs et tous les sanhédrins cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit, donc on parle de ce que nous avons lu tout à l'heure, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Hein, on se souvient des choses pour piéger quelqu'un. Hein? Alors ça nous fait rappeler, attention, ne dites pas n'importe quoi, hein? Parce qu'on va vous le renvoyer à la figure. Hein? Mais ce que dit Jésus est vrai. Mais le texte de Jean chapitre 2 dit, c'était pour, il l'appliquait sur son corps, qui est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, la signification de comprendre la parole de Dieu est importante. Donc, il est accusé de tout cela. Je dois vous dire qu'avec des accusations pareilles, on n'y échappe pas, parce qu'ils ont mis vraiment le paquet, hein, contre Moïse, contre Dieu, contre le temple, contre la loi, jusqu'à changer la loi. C'est le summum des accusations dans cette communauté. Alors, le chapitre 7 nous présente la défense d'Étienne. Alors, sa défense est toute simple. On l'accuse de détruire la loi. On l'accuse de proférer des choses contre le temple, contre Moïse, ainsi de suite. Alors, il fait l'historique, il rappelle l'historique du peuple d'Israël. En résumé, bien sûr, en condensé, il commence par Abraham. L'appel d'Abraham dans la Genèse. Et il va jusqu'à la construction du temple par Salomon. Tout y est. Et quand il arrive au niveau de la construction du temple, il cite le prophète Ésaïe. Alors, revenons sur ce résumé. Il relève 3 points particuliers. Il souligne dans ce récit la prophétie concernant le Messie, concernant Jésus. C'est le verset 37. 7, 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée, ainsi de suite. Il cite Moïse qui fait cette prophétie de la venue de ce prophète à qui tout le monde doit se soumettre. Nous le voyons bien sûr cela dans Genèse au chapitre 18, versets 15 à 19, mais répété dans Acte 3. Acte 3, au verset 13. C'est Pierre qui parle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. Et on continue. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait mourir. Il est question, il a souligné cette histoire de la prophétie concernant le Messie. Et nous pouvons dire, Adrien nous l'a répété plusieurs fois quand il a présenté les précédents chapitres, nous sommes dans cette période de proposition messianique. Il est renouvelé à chaque fois à la nation du peuple d'Israël que le Messie est là. C'est lui le Messie, c'est Jésus. Dans Jean au chapitre 1er, nous voyons ce texte formidable, verset 9, où il est dit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La proposition messianique. Rappelez encore, c'est lui le Messie, c'est Jésus. Voilà le premier point relevé dans la série de rappels de l'histoire du peuple d'Israël, dans le témoignage, la défense d'Étienne. Et puis, comme il est accusé à plusieurs reprises de détruire le temple ou profaner le temple, il est question, il rappelle la place du temple. Donc, dans son récit, il rappelle la construction du temple, le lieu saint. Et à ce sujet, versets 48 à 50 du chapitre 7 des Actes des Apôtres, il souligne ce qui a été dit par Salomon précédemment au moment de la construction du temple. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Alors là, il cite Ésaïe 66. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alors, que veut dire la parole de Dieu dans ce sens? Oui, le temple est saint, mais celui qui est censé y habiter est plus grand encore que le temple. Mais quel maison me bâtirez-vous, dit le prophète. Si nous allons dans Ésaïe 66, il y a quelque chose que Étienne ne cite pas à la fin du verset 2 de 1, Ésaïe 66. Ésaïe, chapitre 66, versets 1 et 2. Ésaïe 66, versets 1 et 2. Et c'est la citation d'Étienne. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Et là, je veux le souligner. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Vous vous basez sur le temple. Vous vous basez sur différentes traditions. Mais même le temple, il y a plus grand que le temple. Et ceci, c'est Jésus même qui le dit. Matthieu, chapitre 12, versets 6 à 8. Matthieu chapitre 12. Versets 6 à 8. Donc toujours dans ce contestation, temps de contestation avec les sacrificateurs et les juifs, ici concernant le sabbat, il dit, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Jésus entre en accord parfait avec les prophéties, en particulier la prophétie d'Ésaïe. Deuxième chose relevée par Étienne. Le premier, c'est la prophétie concernant la venue de Jésus. Et la deuxième chose, la construction du temple. Mais Dieu est plus grand que le temple, car il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, dit le prophète. Et troisième point, qui s'en rapproche, qui va vers la conclusion de sa défense, c'est le refus répété de la loi de Dieu, et ici du Messie, de la part de la nation du peuple d'Israël. Et ici, là encore, je répète, nous sommes dans cette période où le peuple d'Israël est rappelé que le Messie est là. Matthieu 27. Versets 20 à 26. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit : lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? Tous répondirent : qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit : mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : qu'il soit crucifié. Ainsi de suite. Le refus répété du Messie. Important, ce discours de défense d'Étienne. Vous savez comment j'ai donné comme titre à cette méditation ? La vérité qui fâche. Étienne n'a fait que présenter l'histoire. Et nous avons souligné tout à l'heure la fin du verset 2 d'Ésaïe 66, dont Étienne cite le début. Et la fin dit ceci : voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Dans le psaume 34, verset 19, il est noté : l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et si nous poursuivons dans le chapitre 51 des psaumes, c'est le chapitre où Nathan pointe le doigt sur le péché de David, et le verset 19, il est noté : les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit abattu. Alors, c'était la signification de l'esprit abattu ici, c'est simplement la repentance. Hein? Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit abattu. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et c'est ça que demande Dieu à son peuple. Et non pas la défense d'une tradition, même si ce sont des lois venant de Moïse, mais quelque peu changées. Dans Ésaïe 57, nous voyons encore verset 15. Ainsi parle le Très-Haut, dont le demeure est éternel et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà ce que Dieu veut. Donc nous avons vu l'histoire, résumé de l'histoire présentée par Étienne. Nous avons vu trois points essentiels qui sont cités. Il y a d'autres choses, bien sûr, mais nous avons relevé ces trois points. Et maintenant, nous avons souligné, à travers la citation d'Étienne, la prophétie d'Ésaïe au chapitre 66, versets 1 et 2, le cœur de Dieu. Alors, si nous connaissons que le cœur de Dieu cherche plutôt le cœur humble, le cœur contrit, le cœur repentant, nous constatons à travers toute cette série d'histoires ce que le peuple et leur chef ont toujours fait. Et ça aboutit à l'affirmation terrible de la part d'Étienne. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Versets 7 à 53 du chapitre 7. Et moi, je suis frappé dans cette parole. Étienne ne dit pas « vous vous êtes opposé toujours à la loi. Vous vous nous opposez toujours à ce que le Moïse a donné. Vous vous opposez toujours à Moïse. Vous vous opposez toujours au temple. » Hein, c'est pas ça. Vous vous êtes opposé toujours au Saint-Esprit, celui qui a suscité envers l'être humain, avec le peuple, la pensée de Dieu. Vous vous opposez toujours à ce que Dieu veut, le Saint-Esprit de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que le peuple et leur chef ont toujours fait, depuis l'histoire jusqu'au moment où ils ont arrêté Étienne à ce moment-là. Vous vous êtes toujours opposé au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Poursuivons dans la conclusion d'Étienne. Alors, la conclusion d'Étienne est basée que sur des faits réels. Le peuple refuse d'une manière répétée le plan de Dieu, et l'histoire en est la preuve. Et actuellement, du temps de la vie d'Étienne, les quelques années où Jésus a passé, Jésus, le Messie, est refusé. C'est l'attitude générale. La proposition du Messie est repoussée. Mais est-ce pour cela qu'Israël est définitivement perdu? Mais si nous regardons toujours le récit d'Étienne, nous constatons que, paf, 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 il y a des éléments qui nous permettent que Dieu est patient et aime toujours son peuple. Par exemple, quand il cite Abraham, il relève l'alliance faite à Abraham, la promesse faite à Abraham d'avoir que sa descendance va avoir le pays de Canaan. Le texte dit même que Abraham, quand il a reçu la promesse, il n'avait pas encore d'enfant, alors qu'on parle déjà de sa descendance. Et vous connaissez l'histoire mieux que moi. Abraham n'était pas un jeuneau de 18 ans. Il était déjà au bout. Donc, la promesse faite à Abraham. Et il vient, il continue son rappel à la sortie d'Égypte. L'amour de Dieu quand il envoie Moïse pour arracher ce peuple de l'esclavage. Et en arrivant au mont Sinaï, il lui donne à ce peuple, à travers Moïse, une alliance, un contrat pour marcher ensemble. Mais là encore, le peuple, bien sûr, désobéit. Mais au Sinaï, qu'est-ce que Dieu a donné ? La loi, les tables de la loi. Manifestement, Dieu veut donner le précieux à ce peuple. Et ça, c'est dans la défense d'un homme qui est prêt à mourir. Hein. L'Éternel est fidèle à ses promesses. Et je me permets de vous lire Romains chapitre 11. Ah, ça j'aime bien. Concernant Israël, prenez Romains chapitre 11. Et ça, c'est un enseignement pour nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Romains. Au chapitre 11. On ne lira pas tout, mais prenons ce texte. Et quand vous êtes à la maison, vous lirez le chapitre 10 et le chapitre 11 des Romains. Mais nous lirons ici que les 6 premiers versets, tout d'abord, après peut-être un petit rajout. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste dans l'élection, selon l'élection de la grâce. Aussi, c'est par grâce et ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement que l'œuvre n'est plus une grâce. Dieu n'arrête pas d'avoir son regard vis-à-vis du peuple d'Israël. Et les versets 20 au chapitre, ça c'est juste, les versets 25-29, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Oui, à travers la conclusion d'Étienne, nous voyons que le peuple refuse leur Messie. Mais nous percevons que Dieu est fidèle et il a ses promesses pour ce peuple. À la fin du discours, La conclusion d'Étienne est dure. Homme au courroux incirconcis de cœur et d'oreille. Ce que vos pères, ou plutôt vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Mais tout n'est pas fini. Pierre, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, dit ceci : Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ça, vous le trouvez au chapitre 3, versets 17 à 24. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Il y a un temps de rafraîchissement, de rétablissement qui est prévu pour Israël. Mais cela est lié à plusieurs choses. Au retour du Seigneur Jésus, Jésus revient et Jésus doit être reconnu par ce peuple. Et deux choses est soulignée. Repentez-vous et convertissez-vous. Et ça passe par la repentance et la conversion de toute cette nation. Plan de Dieu. C'est terrible sur le moment. On est dans notre texte le refus du Messie. En tant que peuple et chef, les chefs représentent le peuple. Tout n'est pas fini. Donc gardons à l'esprit que ce peuple n'est pas rejeté. Et ça, mais ça n'enlève pas leur responsabilité d'avoir rejeté le Messie. Alors, pour nous chrétiens, il y a une chose qui est frappante dans ce texte. Nous avons dit que Étienne était diacre, rempli d'Esprit Saint, de sagesse. Il était puissant en parole, ainsi de suite. C'est marqué. Mais il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. Il connaissait sa Bible. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il s'il avait fait ce résumé de bout en bout de l'histoire du peuple d'Israël, c'est que sa Bible de l'époque, donc l'Ancien Testament, il la connaissait. L'histoire d'Israël présentée par Étienne souligne l'importance de la relation du peuple avec son Dieu. Que ce soit une bonne relation, et Dieu le veut, que ce soit une mauvaise relation que Dieu condamne, le récit qui est donné par Étienne est un récit de relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Et cela ne change pas. Ai-je une relation avec Dieu ? Est-ce que j'ai, face à la parole de Dieu, est-ce que j'ai cette attitude d'obéissance ? La manière pour nous aujourd'hui, si nous voulons avoir une relation avec Dieu, c'est de commencer à lire la Bible. Avoir cette discipline quotidienne de la lecture de la Bible. On peut le pousser bien sûr plus loin en disant lecture, étude, réflexion, ainsi de suite. Mais lecture de la Bible. Un autre moyen pour avoir une relation avec Dieu, c'est la prière. Est-ce que nous prenons du temps pour prier et avoir cette relation avec Dieu ? Alors, plusieurs questions sont suscitées par rapport à cette position d'Étienne quant à sa relation avec Dieu face à la parole de Dieu. Nous pouvons nous poser des tas de questions comme lisons-nous régulièrement notre Bible ? Pouvons-nous nous appuyer sur son contenu qui est la parole de Dieu ? Même quand notre foi est malmenée. Il y a des moments durs. Même quand notre foi est malmenée. C'est le cas d'Étienne. Pouvons-nous continuer à nous appuyer sur le contenu de la parole de Dieu ? la mettons-nous en pratique? Connaissons-nous les promesses de Dieu pour nous? Connaissons-nous les promesses de Dieu? C'est bien aussi de les connaître, mais y croyons-nous pour notre encouragement contre vents et marées? Quand autour de vous, qui dit que toutes les histoires de la Bible sont des mythes, et vous continuez à dire non, c'est la parole de Dieu, contre vents et marées. Sommes-nous convaincus que Jésus va revenir? Est-ce que nous l'attendons? Ce n'est pas évident. Hein? Alors, il y a ce texte de Jacques au chapitre 1er qui nous souligne un peu tout ça. Jacques au chapitre 1er. Versets 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il l'était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Et la question, bien sûr, voulons-nous être heureux dans le sens qui est donné par la parole de Dieu? Étienne, homme plein d'Esprit Saint et de sagesse, y croyait jusqu'à mourir lapidé. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous accepterez d'être mis à mort pour des faussetés, des choses que vous croyez vraiment qui ne tiennent pas debout? Il est le premier martyr de l'histoire de l'Église. Ses opposants, face à la réalité des faits, sont en colère. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Ouais, c'est la vérité qui fâche. Étienne, devant la mort, est en paix. Il s'endormit. Voilà. Ce texte nous a permis de connaître les promesses de Dieu quant au Messie, quant au peuple d'Israël, quant à leur attitude, quant au temple. Dieu est plus grand que le temple. Historiquement, nous avons été enrichis. Nous pouvons avoir une attitude claire par rapport à Israël. Les promesses faites à Israël, la proposition d'Israël, leur situation actuellement qui semble pas claire, on a l'impression qu'ils sont repoussés. Ça, c'est Romains 11 qui nous parle. Et pourtant, la promesse, ça, c'est sur Israël. Nous avons été enseignés sur ça aujourd'hui. Mais nous avons aussi été enseignés par l'homme Étienne, qui, face à la parole de Dieu, est allé jusqu'au bout. Et là, faisons une application de notre vie. C'était la série de questions que je vous ai laissées. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est riche. Ce n'est pas un simple discours que nous avons lu, mais un rappel des points essentiels de l'histoire d'un peuple que tu aimes, le peuple d'Israël. Mais aussi un peuple qui ne sait pas comporter et ne se comporte pas toujours comme toi tu veux. Mais Seigneur, tu reviens autant pour prendre ton église, autant pour ton peuple d'Israël, dans un but bien différent. Alors nous te louons, Seigneur, parce que ce que tu veux, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, nous le savons, Seigneur, c'est ta personne, toi, Jésus, le Messie, le Christ. Sois loué. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Amen.